La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Goethe s'est intéressé à tout. Les pierres, les plantes, les arbres, la poésie, le théâtre, le dessin, le gothique, mais aussi le classique, les femmes et certains disent aussi les hommes, le patin à glace, mais aussi l'équitation, les routes, les ponts, la modernité, tout on vous dit. Il est l'homme universel, celui qui représente la culture allemande dans toute son universalité justement, l'auteur de 150 œuvres dont seulement la moitié ont été traduites en français à ce jour. Nous avons raconté sa vie lundi dernier avec Sylvie Lemoyle au cours d'une émission à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et nous raconterons demain son voyage en Italie et son traité des couleurs. Car j'ai oublié de dire qu'il s'intéressait aussi à l'idée même de couleur. Jean Lacoste viendra pallier cette erreur. Enfin hier, nous avons évoqué les grandes caractéristiques de l'œuvre de Goethe et parlé notamment de son roman épistolaire « Les souffrances du jeune Werther », c'était en compagnie de Claude Roels. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des Faust de Goethe, ces pièces de théâtre écrites et réécrites sur ce même grand mythe allemand, nous sommes en compagnie de Jacques Le Rider, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, auteur de nombreux travaux sur la modernité viennoise, sur Hofmannsthal, Karl Kraus, Zweig, Schitzner, et qui a beaucoup écrit aussi, évidemment, sur Goethe. On lui doit, notamment avec Jean Lacoste, aux éditions Bartilla, une édition intégrale de Faust, reparue cette année pour la 4e édition. Et voici justement un extrait en longueur, vous allez l'entendre, de la première partie du premier Faust, lu par Guillaume Gallienne. Il commence par une conversation entre Dieu et le diable, rien que cela.
Seigneur, tu veux savoir comment les choses vont chez nous ? Pardonne si je ne sais m'exprimer solennellement. Ma bouche te fera rire, assurément, si depuis longtemps tu n'avais pas perdu l'habitude de rire. Je ne sais rien dire du soleil et des mondes, mais je vois seulement à quel point les hommes se tourmentent. Le petit dieu du monde reste fait de la même trempe et demeure aussi bizarre qu'au premier jour. Il vivrait sans doute un peu mieux si tu ne lui avais donné un reflet de la lumière céleste. Il appelle cela la raison, et ne l'emploie qu'à se gouverner plus bêtement que n'importe quelle autre bête. Il ressemble, si votre seigneurie le permet, à une de ces cigales aux longues jambes, qui s'en va sautant et voletant sans cesse, et puis chante sa vieille antienne dans l'herbe. Et s'il restait toujours dans l'herbe ? Mais non ! Il faut qu'il aille fourrer son nez dans l'ordure.
N'as-tu rien de plus à me dire ? Ne viens-tu jamais que pour accuser ? Et n'y a-t-il, selon toi, jamais rien de bon sur terre ?
Non, Seigneur. Tout y va parfaitement mal, comme toujours. Les hommes me font pitié avec leur vie lamentable, au point que je n'ai même plus envie de tourmenter ces pauvres gens.
Connais-tu Faust ?
Le docteur ?
Lui-même, mon serviteur.
En vérité, celui-là vous sert d'étranges manières. Ce fou ne mange ni ne boit rien de terrestre. La fermentation de son esprit le pousse sans cesse au loin et lui-même se rend compte à moitié de sa folie.
Pour le moment, il ne me sert que confusément, mais je vais bientôt le conduire à la clarté.
Que pariez-vous ? Celui-là, vous le perdrez encore, si vous m'autorisez à le conduire doucement dans mes voies.
L'activité de l'homme peut trop aisément se relâcher. Il aime céder au repos sans limite. C'est pourquoi je lui donne volontiers le compagnon qui stimule, opère et doit agir en diable. Eh bien, fais-en ton affaire.
Là, je vous en remercie. L'affaire ne sera pas longue. Je n'ai aucune crainte pour mon pari. Si je parviens à mes fins, vous me permettrez un triomphe à pleine gorge. Il faut qu'il morde la poussière, et avec délices, comme mon cousin, le serpent.
Extrait de Faust 1, lu par Stéphane Varupren et Guillaume Gallienne. Bonjour à vous, Jacques Le Rider.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone. C'est une scène assez terrible, assez frappante, maléfique même, qu'on vient d'entendre, avec Dieu qui converse comme ça avec le diable, presque sur notre dos. Et en même temps, l'idée de cette conversation est assez drôle. On a presque toute l'ambiguïté du Faust dans cette scène-là, vous ne trouvez pas ?
Oui, tout à fait. Ce qui est très frappant, c'est que Goethe transforme le pacte avec le diable en pari. Et c'est ça qui est le coup de génie de Faust et qui métamorphose complètement le mythe de Faust. C'est qu'il est question d'un pari et c'est finalement, paradoxalement, Faust qui l'emporte à la fin sur Méphistophélès. Et qui donne donc raison à Dieu, celui qui discutait dans le ciel avec son antagoniste dans le passage que nous venons d'entendre. Et c'est ça qui fait vraiment le propre de Goethe, c'est cette idée que l'âme de Faust n'est jamais complètement damnée, qu'elle reste toujours susceptible d'être sauvée et que l'énergie libidinale, intellectuelle, vitale de Faust l'emporte finalement sur la pulsion de destruction que représente Méphistophélès.
Donc on peut jouer avec le feu, on peut aller danser avec Faust et tout de même résister à la tentation.
En fait, c'est pas tellement Faust qui incarne la tentation, c'est Méphistophélès qui sème le parcours de Faust de tentation. Faust, c'est une demande permanente et toujours insatisfaite, et Méphisto, c'est l'homme des réponses fallacieuses, trompeuses, des tentations factices qui tentent d'égarer Faust, qui tentent de faire dévier son élan vital et créateur, et qui finalement n'y arrive pas, qui échoue. Finalement, la tragédie de Faust, c'est aussi la représentation de l'échec de Méphisto.
Alors on va continuer à analyser tout au long de cette émission Faust et son mythe, mais revenons peut-être d'abord sur l'importance de ce Faust pour la culture européenne. On a l'impression que on est là au cœur vraiment d'un inconscient européen et peut-être en particulier d'un inconscient allemand, Jacques Le Rider.
En fait, oui, le Faust est un des quelques grands mythes littéraires qui ont façonné la conscience culturelle européenne. Et la vérité, c'est que ce mythe existe avant Goethe et que c'est le génie de Goethe qui a donné sa forme la plus connue et en même temps la plus présente dans tous les esprits.
Alors quels étaient justement les Faustes d'avant Goethe ?
Alors le premier Faust attesté date de la fin de la Renaissance. Il apparaît sous la forme d'un petit livre diffusé à Francfort en 1587 qui raconte la légende du docteur Faustus. Et puis, après s'être répandu en traduction dans toutes les aires culturelles d'Europe, cette légende médiévale et renaissance est reprise par Christopher Marlowe dans sa tragédie, tragique histoire du docteur Faust, qui est le premier état, disons, de textes littéraires de Faust et qui d'emblée fait accéder Faust au premier rang des personnages de la littérature.
Et donc de la littérature anglaise, alors, ici, avec Marlowe.
De la littérature anglaise, mais Christopher Marlowe puise lui-même son inspiration à une traduction française, et cette pièce de Marlowe a à son tour une diffusion européenne, et on sait qu'elle était très bien connue en Allemagne, et en particulier... que Goethe en a vu quelques variantes d'adaptations dans sa jeunesse. Et Goethe s'est tout de suite intéressé à ce mythe de Faust. Et en fait, la première version de Faust, celle qu'on appelle le Ur-Faust, date de sa jeunesse. Et c'est ça qui est le propre de cette œuvre, c'est que Goethe lui a consacré toute sa vie et est revenu à toutes les périodes de sa création à cette matière faustienne.
Alors on va reparler justement de ces différentes versions de Faust, mais pour terminer simplement sur le Faust d'avant Faust, signalons aussi le best-seller à la foire du livre de Francfort de 1587 de Spies, d'un livre intitulé « L'histoire du docteur Johann Faust, magicien, qui fit un pacte avec le diable pour connaître les causes de tout sur la terre comme au ciel », et je vous propose aussi d'écouter sur ce même sujet le metteur en scène allemand Peter Stein.
Il ne faut jamais oublier que Goethe est le seul auteur classique dans la langue allemande qui connaît le théâtre vraiment de tous les parties, parce que lui était acteur, il était écrivain pour le théâtre, il était stage designer, scénographe. Il a inventé une programme réformatrice pour le théâtre. Il a construit des théâtres, un théâtre. Il a fait la gestion du théâtre. Il est directeur du théâtre. Et il a même écrit un ordre pour les répétitions. C'est un texte de lui. Où il a fixé une somme assez haute pour quelqu'un qui arrive trop tard à la répétition. Alors, il connaît le théâtre de l'intérieur dans tous ses aspects. Et lui était aussi le seul qui avait une imagination qu'il existait des dramaturgies diverses. Quand il était allé à l'Italie, lui a observé le théâtre de la Commedia dell'arte. Lui a observé le théâtre des pupazzi,
des poupées,
des burattini in Sicilia.
Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh. Den liebt gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. Da rief seinen Schneider, der Schneider kam heran. Da misst ihm Junker Kleide und misst ihm Hosen an.
Peter Stein donc au micro de Georges Banu. Donc c'est au théâtre de marionnettes, il faut peut-être insister là-dessus, Jacques Le Rider, que Goethe enfant a fait la découverte, la rencontre de Faust. C'est donc d'un Faust aussi populaire, à la fois sérieux mais drôle, comme on le transpose dans le théâtre de marionnettes. C'est de ce Faust-là qu'il est imprégné.
C'est ce qui fait la force de l'œuvre de Goethe, c'est que l'élément populaire reste toujours présent jusqu'à la fin, même au moment où Goethe arrive au degré le plus raffiné des références culturelles et européennes. Et c'est en même temps... un mythe qui l'habite depuis son enfance, depuis sa jeunesse, et ça donne à Faust une sorte d'épaisseur dans l'esprit et l'imagination de Goethe que n'a sans doute aucun autre personnage de son œuvre.
Est-ce que le personnage faustien, ou plutôt l'intrigue faustienne du rapport entre le diable et l'intellectuel, c'est aussi un sujet qui peut le toucher à titre personnel ?
Il est certain que cette idée de cette réflexion sur le génie démonique ou démoniaque est au centre de toute la période Sturm und Drang et de toute la période de ce romantisme dont à laquelle appartient Goethe à ses débuts et dont il va se dégager pour devenir un champion d'un classicisme allemand. Au fond, la réflexion de Goethe sur Faust, c'est la réflexion sur l'homme de génie et sur à la fois la chance d'être génial et la malédiction du génie.
Alors, la chance d'un côté, la malédiction de l'autre, on pourrait le dire du génie, on pourrait le dire aussi de l'énergie vitale, nietzschéenne, prométhéenne, vitaliste même, qu'on ressent dans le Faust. Est-ce que vous souscrivez à cette idée, Jacques Le Rider ?
Oui, tout à fait. C'est dans le début de la première partie de la tragédie que Goethe introduit l'adjectif surhumain. Il ne parle pas de surhomme comme dans certains passages de Nietzsche, mais il parle de l'élément surhumain et il en parle d'une manière d'ailleurs immédiatement ironique et caustique. Sous-entendu, qui veut faire le surhumain ne fera que la bête. C'est vrai qu'il y a une droite ligne de Goethe à Nietzsche dans cette idée d'une transvaluation de l'humain, d'un dépassement de l'humain en direction du surhumain, mais qui, chez Goethe, sera toujours corrigé par le retour à la sagesse et à la raison, à la mesure. Goethe est à la fois un romantique et un classique, à la fois un génie faustien et un sage beaucoup plus proche de Montaigne que des excès romantiques.
Donc il est ces deux choses à la fois, et évidemment les Allemands dans leur histoire postérieure à Goethe ont cherché les uns et les autres à le tirer vers eux. Est-ce que des nationalistes par exemple, je pense évidemment aux nationalistes des années 30 du XXe siècle, ont cherché à tirer Faust et Goethe du côté justement du surhomme, où comme vous venez de le dire très bien Jacques Le Rider, il ne se trouve que de façon tempérée en réalité?
Eh bien oui, c'est le destin de Faust, c'est un destin qui a consterné Goethe lui-même, qui a pu voir de son vivant à l'époque des guerres anti-napoléoniennes, à l'époque où le sentiment national allemand s'exaspère, il a pu voir son Faust devenir un personnage allemand trop allemand, et par exemple dans une pièce de Grabet qui s'intitule Don Juan et Faust. Faust déclare à Don Juan: je ne serais pas Faust si je n'étais pas un Allemand. Et ce mouvement, Goethe l'a détesté, l'a véritablement exécré, et on peut dire que son deuxième Faust, celui qu'il commence à écrire autour de 1825 et qu'il achève à quelques mois de sa mort, ce deuxième Faust sera délibérément un Faust universel, renouant avec l'Antiquité classique, avec la Renaissance italienne, avec toutes les ères culturelles, toutes les références possibles de l'héritage culturel européen, contre justement cette nationalisation du mythe de Faust que Goethe se trouvait détestable.
Et c'est peut-être pour ça que le Parti national-socialiste n'a pas vraiment pu récupérer Goethe ou n'a pas voulu récupérer Goethe, même si, visiblement, il y avait quand même, par exemple, chez les universitaires, dans les années 1930, des interprétations de ce Faust et de Goethe qui étaient nationalistes ou qui étaient vitalistes nietzschéennes.
Bien entendu, vous savez, les nazis ont fait flèche de tout bois, ils ont été capables de tout récupérer, ils ont récupéré même Hölderlin, ils ont tout récupéré, rien n'a échappé à l'intoxication idéologique national-socialiste, et pour avoir une idée de ce que fut l'altération et la falsification du Faust de Goethe à l'époque nazie, il suffit de lire le Méphisto de Klaus Mann, qui raconte de façon très très captivante comment Faust était devenu un classique très apprécié à l'époque nazie, et où, par exemple, Méphisto était présenté sous des traits nettement antisémites. Méphisto comme une espèce de juif tentateur qui venait corrompre le héros allemand Dr. Faust. Enfin, on était arrivé à un comble de défiguration de Faust, mais ça marchait très bien. Alors, on avait déjà vu ça pendant la Première Guerre mondiale où Faust était devenu une sorte de talisman du nationalisme allemand ou dans le déclin de l'Occident chez Spengler où l'âme allemande est représentée comme une âme faustienne qui va sauver l'Occident de son déclin. Donc cette récupération de Faust par le nationalisme allemand a toujours été présent et je le répète, Goethe détestait cela, on était profondément indignés et révulsés.
Sois tranquille, Barbet, ne cours pas en tous sens. Que flaires-tu sur le seuil? Va te coucher derrière le poêle, je te donne mon meilleur coussin. Ne grogne point, ça suffit. S'il faut que je partage la pièce avec toi, Barbet, cesse tes cris. Un compagnon si bruyant, je ne peux le souffrir auprès de moi. Il faut que l'un de nous deux quitte la pièce. La porte est ouverte, tu as le champ libre. Mais que vois-je? Cela est-il naturel? Est-ce une ombre? Est-ce la réalité? Comme mon Barbet enfle et vient à se gonfler. Il se lève puissamment, ce n'est pas une forme de chien. Quel spectre ai-je introduit chez moi avec ses yeux de feu et son effroyable mâchoire? Oh, déjà il se gonfle, ses crins sont hérissés. Relégué derrière le poêle, il s'enfle comme un éléphant. Il remplit déjà tout l'espace et va se dissoudre en vapeur. Méphistophélès sort de derrière le poêle en habit d'étudiant.
À quoi bon ce vacarme? Qu'y a-t-il pour le service de monsieur?
C'était donc là le secret du chien. Un écolier? Il y a de quoi rire.
Je salue le savant docteur. Vous m'avez fait bigrement transpirer.
Quel est ton nom?
La demande me paraît bien frivole.
Eh bien, qui donc es-tu?
Une partie de cette force qui veut toujours le mal et toujours fait le bien.
Que signifie cette énigme?
Je suis l'esprit qui toujours nie. Et c'est avec justice, car tout ce qui naît est digne de périr. Il serait donc mieux que rien ne naquît. Ainsi, tout ce que vous nommez péché, destruction, bref, ce qu'on entend par mal, voilà mon élément propre. Si l'homme, ce petit monde de folie, se regarde ordinairement comme formant un entier, je suis, moi, une partie de la partie qui, au commencement, était tout. Une partie des ténèbres qui donnèrent naissance à la lumière.
Maintenant, je connais tes honorables fonctions. Tu ne peux anéantir la masse, et tu te rattrapes sur les détails. Entreprends donc autre chose, étonnant fils du chaos.
Nous allons y réfléchir sérieusement lors de la prochaine entrevue. Puis-je cette fois m'éloigner ?
J'ai maintenant appris à te connaître. Rends-moi désormais visite à ta guise. Voici la fenêtre, voici la porte, et tu peux même passer par la cheminée.
L'apparition donc de Méphistophélès incarné temporairement dans un chien, un barbé. C'est un passage assez drôle, assez ironique. Jacques Le Rider, qu'est-ce que vous en retenez à titre personnel ?
D'abord, j'en retiens le sens étonnant de l'efficacité scénique dans le Faust originel et dans la première partie du Faust de Goethe. On sent, comme le disait tout à l'heure Peter Stein, que Goethe a vraiment une parfaite connaissance et un grand instinct du théâtre. Et qu'en même temps, ces représentations personnelles de Faust sont, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, à la fois le témoignage d'une haute culture européenne et puis indissolublement liée à la culture populaire, la culture des images d'Épinal, du théâtre de foire, des petits almanachs qui circulent dans les boîtes des colporteurs. Et c'est cet alliage de matière populaire et de haute culture qui fait le caractère fascinant de Faust.
Et s'il est fascinant, ce Faust, c'est justement qu'il est un alliage qui s'étend sur des dizaines et des dizaines d'années. Et on comprend mieux d'ailleurs qu'il soit un alliage parce que il a été rédigé sur des décennies et des décennies. Vous avez déjà commencé d'en parler un tout petit peu, Jacques Le Rider, mais vous n'êtes pas allé tout à l'heure au fond de votre découpage. Est-ce qu'on peut déjà reprendre un petit peu la chronologie en commençant par le Ur-Faust, qui est donc le Faust d'avant Faust, qu'écrit Goethe, assez jeune en fait, en tout état de cause.
Voilà. Cet Ur-Faust, qui est le Faust original ou le Faust primitif à tous les sens du mot, celui que Goethe commence à porter avec lui à l'époque où il est étudiant à Strasbourg, et on entend parler pour la première fois de Faust dans l'entourage du jeune Goethe en 1773. Il a 24 ans à l'époque. Et il emporte son manuscrit à Weimar, où il vient d'être recruté par le duc Charles-Auguste de Weimar, qui lui a offert un poste de ministre. Et à la cour de Weimar, il va faire des lectures de son manuscrit et séduire ses auditeurs, et c'est comme ça, grâce à la copie du manuscrit de Goethe par une dame de la cour de Weimar, qu'on a retrouvé le Faust originel, qui a été publié pour la première fois en 1887.
Donc ce Faust remporte un grand succès à la cour de Weimar, mais pourtant il ressent l'envie d'en refaire un deuxième, ou plutôt de le perfectionner. Donc le Ur-Faust fait 1441 vers, et ce qu'on appelle le Faust lui-même fera lui 4614 vers. C'est beaucoup d'années après.
Oui, en effet, le Faust 1, l'histoire de Faust et de Gretchen, Marguerite, est publié en 1808. Donc ça fait tout de même une longue époque entre le premier état de Faust en 1775 et puis la première publication intégrale de la première partie de la tragédie en 1808. Et c'est vraiment quelque chose de, je crois, assez unique dans la littérature européenne, qu'un auteur ait pu ainsi, à toutes les époques de sa biographie, se consacrer à un sujet qui l'obsède, qui le suit durant toute son existence, et à chaque fois arriver à créer une œuvre autonome qui est un chef-d'œuvre dans son genre. Le Ourfaust est un chef-d'œuvre, je dirais, juvénile, débordant de vitalité, de sensualité. Le Faust 1 est un sommet métaphysique et de réflexion sur l'amour, sur Dieu et le diable et l'humanité. Et le second Faust, il commence à l'âge où, à l'époque, on était déjà considéré comme un grand vieillard, en 1825, sera alors le sommet absolu de l'art goethéen, à la fois dans la forme où Goethe se donne le meilleur de lui-même, et dans le fond où Goethe synthétise toute sa philosophie, toute son esthétique, toute sa réflexion sur l'éthique, sur la politique.
À tel point, Jacques Le Rider, qu'il dira, une fois achevé son Faust II, « Désormais, je peux considérer comme un don gratuit les jours qui me restent à vivre. Maintenant, il importe peu de savoir si je fais encore quelque chose et ce que je ferai. »
Oui, c'est ce qu'il déclare à son fidèle Eckermann le jour où il pose sa plume et où il considère que son manuscrit est définitivement achevé.
Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette fidélité à ce sujet? On a l'impression que c'est un sujet qui le tient en laisse pendant absolument toute sa vie.
Eh bien, cette fidélité, c'est sans doute une identification très profonde de Goethe lui-même à Faust, qui incarne à chaque étape des métamorphoses de cette œuvre, une modalité de l'existence de Goethe, le Goethe aventurier, séducteur et quelque peu tout fou de la première période dans Ourfaust, le Goethe tourmenté, encore très pris dans le romantisme, mais déjà aspirant à plus de rigueur classique dans le Faust 1, et alors dans le Faust 2, cette somme philosophique et esthétique et politique. Donc je crois que Goethe s'est identifié à Faust de la même façon qu'il s'est identifié à son Wilhelm Meister dans les années d'apprentissage suivies des années de voyage. Ça fait partie de ces personnages qui sont des alter-égaux pour Goethe et qui sont des représentations synthétiques de l'existence humaine.
In Sammel und in Seide ward ihr nun angetan, harte Bänder auf dem Kleide, und auch ein Kreuz daran. Und war sogleich Minister und hat einen großen Stern, da werden seine Geschwister bei Hof auch große Herren.
Des œuvres sur France Culture. Nous parlons du Faust de Goethe avec vous, Jacques Le Rider. Alors, il faut dire que cette pièce, ces pièces, cet ensemble, disons, reste assez énigmatique. Nerval, qui l'a traduite en français, disait « Il est reconnu que Faust renferme certains passages, certaines allusions que les Allemands eux-mêmes ne peuvent comprendre. » C'est surtout vrai avec le Faust 2, on a l'impression qu'il va vers de plus en plus de complexité formelle, mais dans l'ensemble, ce tout-là pose beaucoup de questions quand même, Jacques Le Rider.
Oui, c'est Ce que vous venez de dire est une caractéristique au fond de l'art de Goethe, qui est à la fois extrêmement accessible à un grand public par son imaginaire populaire, par ses sujets qui sont liés directement à cette imagination qui peut retenir l'attention d'un public de théâtre ou d'un lecteur de roman. Et puis, en même temps, il y a chez Goethe cette tendance à un certain ésotérisme qui se manifeste dans beaucoup de ses écrits. Vous savez que Goethe a publié, par exemple, un conte alchimique ésotérique, Le Serpent Vert, qui est une sorte de rébus que aujourd'hui encore on s'épuise à interpréter tellement il est complexe et tellement il est mystérieux, mais en même temps toujours extrêmement séduisant. Et ce qui fait le charme et la puissance de Faust, c'est que chaque vers, détaché de son contexte, apparaît comme une maxime, comme une sentence, comme une sorte d'oracle. C'est cette extraordinaire densité qui fait la force de Goethe, qui fait aussi l'extrême difficulté de la traduction.
Alors, il est séduisant, en effet, ce Goethe. Il brille de feu un petit peu mystérieux. Il a quelque chose de très baroque, le Faust, et encore une fois, le Faust 2 encore davantage. Alors, Goethe, s'est éloigné, on l'a vu, du romantisme, qui revendiquait le classicisme, finalement, produit dans son œuvre qu'il considère comme son chef-d'œuvre, quelque chose, au fond, assez baroque, assez décousu, assez bizarre. Même.
Oui et non. Je ne sais pas si j'accepterais personnellement de parler de baroque parce que il y a une cohésion, une continuité très profonde qui réunit tout ce qui à première vue apparaît comme décousu et quelque peu juxtaposé et moléculaire dans la conception de en particulier du deuxième Faust. Je crois qu'en réalité, ce qui rend cette œuvre un petit peu étrange et parfois même presque inquiétante, c'est que le spectateur et le lecteur se rend compte assez rapidement que Faust et Méphisto ne font qu'un. Mm-hmm. Et que Méphisto est le double de Faust, et c'est le caractère même de l'inquiétante étrangeté selon Freud, que ce dédoublement du personnage entre son personnage positif, présentable, celui du docteur Faust, et son double maléfique.
On est dans Jekyll and Hyde.
Oui, et c'est d'une certaine façon, ou bien on est dans le double des contes nocturnes de E.T.A. Hoffmann, qui avait inspiré à Freud son texte sur l'inquiétante étrangeté. Je crois que c'est cette identité profonde de Faust et de Méphisto qui fait que l'opposition apparente, l'opposition qui est une fausse évidence sur scène, est en réalité une fusion parfaite des deux personnages, au point que dans certaines scènes, Méphisto joue le rôle de Faust à la place de Faust, et que tous les personnages de la pièce confondent Méphisto avec Faust. Mais si on le confond, c'est parce que c'est la même c'est le même caractère qui s'exprime sous deux facettes, et c'est cette inquiétante étrangeté qui traverse toute l'œuvre et qui lui donne cette résonance très particulière et parfois presque inquiétante.
Mais moi, c'est clairement fait le plus grand intérêt pour la langue, et parce que c'est le maximum qu'on pouvait faire avec la langue allemande. C'est incroyable, presque utopique, que lui peut faire dans la musicalité de cette langue difficile qu'est la langue allemande. Et parce que lui, il a écrit tout ça, comme vous savez, dans des vers rimés. Et en allemand, on ne rime pas, ce n'est pas possible. On rime facilement en italien et en français, mais en allemand, ce n'est pas possible. Et il a fait l'impossible possible. Et son texte est pure musique, si on est capable de parler. C'est une grande difficulté parce que sur notre théâtre allemand, le vers rimé n'existe plus. Il n'y a plus des acteurs qui peuvent parler des rimes, jouer avec des rimes. Et tout ça est devenu pour moi un projet que j'ai proposé parce que je suis sûr que même si artistiquement c'est un bancroc,
une faillite,
ça vaut la peine.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Peter Stein, toujours au micro de Georges Banu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Jacques Leurider, vous qui avez lu Faust en allemand et en français, de la différence qu'il peut y avoir entre la traduction de Nerval, dont on a déjà dit hier qu'il ne savait pas exactement l'allemand, et la langue telle que Goethe l'a rédigée dans sa langue maternelle?
Disons que le Faust de Nerval, pour les germanistes, c'est autre chose que Goethe. Mais le texte de Nerval doit son caractère irremplaçable au fait que c'est beaucoup plus qu'une traduction. C'est une œuvre, je dirais, parallèle au Faust de Goethe. C'est profondément nervalien. C'est un chef-d'œuvre en langue française qui se pose comme une sorte d'équivalent du chef-d'œuvre de Goethe en langue allemande. Et donc je crois paradoxalement que on ne rend pas justice à Nerval quand on compare Nerval à l'original du point de vue de la traduction en se demandant s'il a été fidèle ou pas. Je crois que cette approche n'est pas la bonne pour apprécier Nerval. Il faut tout simplement mettre de côté le texte de Goethe et considérer le texte de Nerval comme un texte autonome, comme une création, une recréation personnelle de Nerval.
Alors comment...
Et à ce moment-là, on est forcé de constater que le Faust de Nerval est un chef-d'œuvre à sa manière.
Alors comment mettre en scène ce Faust ou ces Faust? Goethe lui-même a été directeur de théâtre. Est-ce qu'il a eu la tentation, selon vous, de faire jouer son Faust dans le théâtre de la cour de Weimar? Et plus largement, que dire des difficultés finalement à porter sur la scène ce texte?
En fait, ce sont des difficultés extrêmement variables, parce que Ur-Faust et la première partie de Faust ont été d'innombrables fois mises en scène avec beaucoup de succès et ont toujours été un titre qui séduisait le public. Cette difficulté de mise en scène, Eh bien, elle est liée à ce que Peter Stein définissait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on a affaire à une œuvre exceptionnellement dense qui impose au lecteur, au spectateur et bien entendu aussi aux metteurs en scène et aux acteurs une performance exceptionnellement intense. Mais ce qui pose un problème, c'est surtout le Faust 2. Parce que dans le Faust 2, Goethe cesse de penser à une réalisation scénique. C'est un théâtre pour la lecture, c'est un théâtre dans un fauteuil, comme disait Musset. Les mises en scène de Faust 2 ont toujours été d'abord assez rares. Il est très rare qu'un metteur en scène et un directeur de théâtre se lancent dans la production de Faust 2. Et puis ensuite, elles ont toujours eu des configurations extrêmement variables et pas toujours convaincante. Par exemple, on a isolé un acte pour essayer d'en faire une œuvre autonome, ou bien on a fait des résumés pour essayer de condenser cet ensemble immense en une soirée théâtrale. En fait, la tentative la plus spectaculaire et la plus convaincante peut-être que j'ai connue, c'est celle de Peter Stein, qui en 2000, à l'occasion d'une foire européenne à Francfort, à Hanovre, avait proposé une mise en scène intégrale de Faust 1 et de Faust 2. Mais c'était à ce moment-là une expérience d'immersion totale dans le théâtre et le texte de Goethe, puisque le spectacle de Peter Stein durait une journée entière et on invitait les spectateurs à vivre avec le Faust de Goethe pendant l'équivalent de 4 ou 5 soirées normales, habituelles de théâtre à la suite et sans interruption.
Que je n'aille pas moi-même perdre la tête, j'appellerai cela simplement une foire.
Tout le tourbillon s'élance vers le haut, tu crois pousser et tu es poussé.
Qui est dans cette femme ?
Considère-la bien, c'est Lilith, la première femme d'Adam. Prends garde à ses beaux cheveux, parure qui chez elle brille d'un éclat unique. Quand elle s'en sert pour séduire un jeune homme, elle ne le laisse pas s'échapper de sitôt. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas de repos. On passe à la danse. Viens maintenant, du cœur à l'ouvrage.
Faust dansant avec Lilith. Je fis naguère un beau rêve. Je vis alors un pommier avec 2 pommes qui brillaient. Elles m'attirèrent et je grimpais. Méphistophélès dansant avec une vieille femme.
Je fis naguère un vilain rêve. Je vis alors un arbre fendu. Il avait un énorme trou. Si grand qu'il fût, j'y trouvais goût.
Faust s'arrêtant de danser. Méphisto, vois-tu là-bas une belle enfant qui demeure seule dans l'éloignement ? Elle se retire languissamment de ce lieu et semble marcher les fers aux pieds. Je dois avouer qu'il me semble qu'elle ressemble à la bonne Marguerite.
Laisse cela. Personne ne s'en trouve bien. C'est une figure magique, sans vie, une idole. Il n'est pas bon de la rencontrer. Son regard fixe fige le sang de l'homme et le change presque en pierre. Tu as déjà entendu parler de la Méduse.
En vérité, ce sont vraiment les yeux d'une morte qu'une main chérie n'a point fermée. C'est bien là le sein que Marguerite m'abandonna. C'est bien le corps si doux que je possédais.
C'est là un tour de magie, pauvre fou, facilement séduit, car chacun croit y trouver celle qu'il aime.
Quelle délice et quelle souffrance. Je ne puis m'arracher à cette vue. Qu'il est étrange cet unique ruban rouge, pas plus large que le dos d'un couteau qui semble parer ce beau cou.
La compagnie des œuvres avec cet extrait de la scène de la nuit de Walpurgis et du sabbat des sorcières, Jacques Peurider, lu, vous l'avez reconnu, par Guillaume Gallienne. L'inquiétante étrangeté dont vous parliez tout à l'heure, on la trouve peut-être en particulier dans cette nuit de Walpurgis. Qu'est-ce qui s'y joue en réalité?
Vous savez qu'il y a deux nuits de Walpurgis dans le cycle faustien. La nuit de Walpurgis germanique, le sabbat des sorcières sur le Brocken dans Faust 1, et puis la nuit de Walpurgis classique dans le Faust 2. En fait, c'est ce grand dualisme qui structure la matière faustienne. Faust, Méphisto, Dieu et le diable, Eros et la matérialité de la pulsion libidineuse, tout cela se condense dans les nuits de Walpurgis où le grand amour de Faust pour Marguerite et ensuite pour Hélène dans Faust 2 se trouve tiré vers la scatologie, vers la matérialité la plus répugnante et la plus grotesque.
Et que voudrait nous dire par là Goethe, selon vous, même si c'est une question difficile?
Eh bien, ce qu'il veut nous dire, c'est cette ambivalence très profonde de l'élément pulsionnel qui est à la fois ce qui nous pousse vers la sublimation, c'est l'énergie qui peut être mise au service de la culture, de la création, de l'intelligence, de l'art. Et puis d'un autre côté, c'est la pulsion destructrice, la pulsion du mépris de toutes les valeurs que la culture voudrait nous imposer. Donc je crois que dans ces passages de Goethe, il faut voir beaucoup plus que de simples intermèdes grotesques et des sarabandes de sorcières. Il faut y voir l'illustration de ce qui est la structure profonde de l'œuvre d'un bout à l'autre, à savoir l'ambivalence de la nature humaine entre le sublime et le grotesque le plus hideux.
Est-ce que le personnage de Homonculus, cet enfant prodige qui fait un peu étalage de sa science dans la nuit de Walpurgis classique du Faust 2, est-ce qu'il peut aussi représenter ce que vous dites, en ce sens que c'est une sorte de démon visionnaire?
Homonculus, c'est le résultat d'une terrible manipulation génétique opéré par le pitoyable disciple du docteur Faust, le Famulus Wagner, qui a été laissé seul dans le laboratoire du docteur Faust. Et c'est le symbole de ce que peut faire la manipulation génétique à l'humain. C'est une sorte de parodie de création et de procréation. Et ce malheureux homonculus est une créature à la fois touchante et pleine de dons, et puis c'est une créature en fait profondément ridicule, débile, atrophiée, qui est vouée à une mort rapide.
Mais là aussi, on est un peu entre le sublime et le très bas, non? Un petit peu comme vous nous en parliez il y a quelques secondes.
En fait, le Homonculus dans le second Faust, c'est la suite directe de Faust alchimiste. C'est une c'est une création démoniaque.
Oui. Parlez bien dans votre téléphone, si vous pouvez.
Celui qui fait naître l'homonculus, c'est en réalité Méphistophélès. Wagner croit être le génial scientifique qui a mis au point ce bébé éprouvette, mais en réalité, Méphisto est à l'œuvre, et donc Homonculus, c'est la création de Dieu parodiée, déformée, dévoyée par Méphistophélès. C'est une créature qui relève de la tératologie et qui est à la fois pitoyable et terrifiante.
Alors vous qui avez également travaillé sur Freud, peut-être qu'on peut terminer là-dessus. À part l'inquiétante étrangeté mentionnée plus haut, quelle a été pour Freud l'importance de ce Faust? L'a-t-il beaucoup étudié?
Je crois que Faust fait partie de la culture de Freud au même titre que les classiques de l'Antiquité grecque et latine. C'est le classique absolu de la culture allemande à l'époque de Freud et aujourd'hui encore d'ailleurs. Et il est certain que toutes les grandes oppositions chez Freud, l'opposition entre le moi et le ça, par exemple, sont un peu le décalque de cette opposition fondamentale entre Faust et Méphistophélès.
Et puis on pourrait aussi ajouter que la religion du diable dont rêvait Freud pour expliquer certaines perversions sexuelles, puisque Freud emploie cette expression dans ses lettres à Wilhelm Fliess pour parler de l'épilepsie, de la possession, de l'hystérie même, sont assez proches au fond de cette ambiance des nuits de Walpurgis. Très rapidement, Jacques Le Rider.
Oui, ça ne fait aucun doute. Il y a d'ailleurs un élément théâtral dans l'hystérie qui rejoint en effet cette mise en scène du pulsionnel qui est constante, en particulier dans le Faust 1.
Ben voilà qui ouvre de belles perspectives sur lesquelles on aurait plaisir à bavarder davantage avec vous, Jacques Le Rider. Mais malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et co-responsable de l'édition du Faust chez Bartilla. C'était la Compagnie des œuvres, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Jacques Azubert. Demain, pour le dernier épisode de cette série Goethe, nous serons avec Jean Lacoste pour parler de son voyage en Italie, pas à Jean Lacoste, à Goethe, ainsi que du traité des couleurs du grand écrivain allemand.